7-9.
Lundi 30 août, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'équipe du 7-9. À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle étape dans la mise en place du pass sanitaire obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les salariés en contact avec le public. Charge à l'employeur de le vérifier. À la SNCF, 3500 agents sont concernés. On voit ça, Anaïs, après les autres titres.
Une zone protégée à Kaboul pour permettre de continuer à évacuer des Afghans même après la date butoir du retrait américain demain. Proposition présentée par le président français, l'Allemagne et le Royaume-Uni aux Nations Unies. Vous entendrez Emmanuel Macron. Sur place, les ONG prudentes se remettent au service de la population. Dans les Ardennes, les fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin reprennent aujourd'hui. Ultime campagne sur les indications de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. Et puis Lionel Messi sur un terrain de Ligue 1. Ovation rémoise hier pour le joueur du PSG qui s'est imposé 2-0.
Et les invités et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h15. 7h15, ne ratez pas le premier épisode de notre série de Zoom spéciaux consacrés aux attentats du 13 novembre. Et à 7h20, une nouvelle chronique qui s'intitule En toute subjectivité. Et avec vous Léa, à 7h50.
Eh bien, elle impressionne souvent, elle agace parfois, mais dans son dernier roman, elle foudroie. Le voyage dans l'Est est sans doute le livre le plus fort de Christine Angot et l'un des livres phares de la rentrée littéraire. Christine Angot sera avec moi à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale, avec donc aujourd'hui le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. J'ai nommé Bruno Le Maire, qui dialoguera avec vous, répondra à toutes vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Comme à chaque nouvelle étape, le gouvernement promet une semaine de rodage et de souplesse. Le pass sanitaire s'élargit encore aujourd'hui, obligatoire désormais au travail si vous êtes en contact avec du public. Les salariés des restaurants, des cinémas, des musées y sont donc soumis. Pour rappel, le pass c'est un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 72 heures ou encore un certificat de rétablissement après le Covid. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Alors qui est concerné?
1 800 000 personnes, les salariés, les bénévoles, les apprentis, les stagiaires, s'ils sont mineurs, ce sera à partir du 30 septembre, mais aussi les intervenants et les sous-traitants, uniquement ceux qui sont en contact avec du public. Dans un restaurant, par exemple, un salarié en salle obligatoire, en cuisine, pas obligatoire.
Et qui contrôle?
C'est l'employeur qui en a la charge. Il scanne le QR code, la couleur verte ou rouge s'affiche, mais il ne sait pas si son salarié est vacciné ou a préféré faire un test. C'est le secret médical. Et c'est la police qui, par des contrôles aléatoires, vérifie que l'employeur s'assure régulièrement que ses équipes sont en règle.
Et quelles sont les sanctions, Delphine?
Pour le salarié sans passe, la journée de travail s'arrête net et s'offre alors à lui plusieurs possibilités. Prendre des congés, télétravailler, changer de poste pour ne plus être en contact du public ou bien être suspendu sans solde si au bout de plusieurs semaines, il ne présente toujours pas son passe. Alors la procédure de suspension du contrat de travail pourra être engagée. L'employeur, lui, risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende s'il est pris en défaut à 3 reprises et une fermeture administrative après un avertissement et une mise en demeure.
Et le dispositif en théorie est en place jusqu'au 15 novembre. Le pass sanitaire ne devrait pas poser de problème dans la majorité des cas. 64% de la population ayant déjà un schéma vaccinal complet. À la SNCF, 3500 agents sur 70 000 sont concernés, voire même un peu plus, Maxime Deps.
Que les cheminots prennent le train du pass en marche, rien de plus normal pour Olivier Despoulins de l'UNSA Ferroviaire.
Une loi s'impose, elle s'impose à nous, comme tout un chacun.
Officiellement, 3500 agents, les contrôleurs en premier, au contact du public, sont visés par cette obligation du pass, qui ne passe pas partout, pas pour tout le monde, mais finalement, est-ce bien étonnant?
Alors ça passe bien pour celui qui accepte, ça passera moins bien pour celui qui accepte pas. On est toujours dans cette situation, on a effectivement quand même quelques agents qui sont réfractaires.
Ils sont quand même assez peu à ses yeux. En revanche, ce qui l'interpelle un peu plus, c'est le cas des conducteurs, pas au contact des voyageurs certes, et donc non soumis à cette nouvelle obligation. Pour autant, ils ne pourront faire autrement que de se conformer au pass ou à un test PCR, ne serait-ce que pour passer d'un poste dans une gare à une autre.
Dans notre service, il nous arrive de prendre le train en tant que voyageur. Et à partir du moment où l'on devient voyageur dans notre service, nous sommes obligés d'être munis du pass sanitaire. Et là, oui, effectivement, donc de cette là, ça impacte l'ensemble des métiers.
Et si demain les conducteurs en conformité, entre guillemets, venaient à manquer, c'est un risque, estiment les syndicats. La SNCF, elle, se veut confiante. Les équipes médicales en interne ont bossé tout l'été.
Et la SNCF estime que 70% des salariés concernés sont vaccinés. Les cheminots prennent le train du pass en marche, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Ailleurs, ça passe moins bien. Le syndicat Sud appelle à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, par crainte de suspension de contrat et de licenciement. La CGT dénonce des incohérences. Son secrétaire général Philippe Martinez sera l'invité du 13-14. Une réunion intersyndicale nationale a lieu ce soir. Pendant ce temps, la pression sur les hôpitaux a cessé de croître. 11 000 patients Covid toujours hospitalisés en France, un chiffre stable.
Il est 7h06, à J-1 du retrait définitif des Américains d'Afghanistan. Anaïs, des roquettes tirées ce matin dans le ciel de Kaboul.
Et la confirmation ce matin des États-Unis, 300 Américains encore à évacuer et des milliers d'Afghans qui s'accrochent encore à l'espoir de fuir le pays aux mains des islamistes malgré la fin des ponts aériens des Occidentaux. Que se passera-t-il après le 31 août ? Washington réunit aujourd'hui ses partenaires clés en visioconférence, dont la France. Le président de la République plaide pour la création d'une zone protégée à Kaboul pour permettre de poursuivre les opérations humanitaires. Emmanuel Macron s'en est expliqué hier soir sur TF1 depuis l'Irak où il était en visite.
Ce que nous avons proposé et que nous portons au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est une solution qu'on connaît, qu'on a déjà vu se dessiner dans d'autres théâtres d'opérations, d'une zone permettant de sécuriser les arrivées à cet aéroport et la protection des personnes. Je pense que ça a un intérêt. Pourquoi ? D'abord parce que ça mobilise toute la communauté internationale, ensuite parce que ça crée une pression sur les talibans, et parce que mettons en acte ce qu'on leur demande. Disons, si vous voulez avancer et avoir un pays ouvert au reste de la région et du monde, vous devez respecter les règles humanitaires et permettre à toutes les femmes et les hommes qui veulent être protégés de l'être.
Une zone protégée à Kaboul n'est pas nécessaire, lui répond le porte-parole des talibans. Il l'a dit à notre envoyé spécial à Doha au Qatar. Vous l'entendrez dans le journal de 8 heures. Dans ces conditions de tension extrême, comment les ONG poursuivent-elles leur travail sur le terrain ? Isabelle Labéry, plusieurs avaient suspendu leurs activités, mais elles reprennent leur mission entre inquiétude et appréhension.
Parce que la moitié de la population afghane est mal nourrie, mal soignée, parce qu'elle a besoin de l'aide humanitaire. Action contre la faim reprend son travail de terrain après 10 jours de suspension, son président Pierre Micheletti.
Dans le discours, les talibans sont sur une ligne plus souple. Oui, vous pourrez continuer à mobiliser votre personnel féminin et oui, vous aurez accès sans discrimination aux femmes et aux fillettes comme aux hommes.
Mais combien de temps ces promesses tiendront-elles ? C'est l'inquiétude de Gilles Nouziès, responsable de Handicap International, qui tient un centre de rééducation à Kandahar.
Il y a une autonomie assez large des provinces, ce qui fait que les règles que nous imposent les talibans varient d'une province à l'autre.
Quant à la crainte d'être visée par un attentat, elle est moins forte aujourd'hui chez les humanitaires que la peur de voir le système de santé s'effondrer si les bailleurs de fonds se détournent de l'Afghanistan. Sophie Château travaille pour Médecins Sans Frontières.
On a déjà le ministère de la Santé qui nous approchait en nous disant « nous ne sommes pas sûrs demain de pouvoir continuer à faire fonctionner notre unité Covid, par exemple. » Et puis on va le voir sur la santé maternelle, sur la pédiatrie. Il y a des risques plus ou moins dramatiques sur la situation sanitaire.
Après la Banque mondiale, plusieurs pays comme l'Allemagne et la Suède ont déjà suspendu leurs aides à l'Afghanistan.
Et les États-Unis disent par ailleurs enquêter sur des victimes civiles possibles après leur frappe à Kaboul hier. Une frappe sur un véhicule soupçonné de transporter des explosifs près de l'aéroport. Les médias parlent de 9 morts. Des rues désertées, des magasins barricadés à la Nouvelle-Orléans entièrement privés de courant. 16 ans après, Katrina, la Louisiane, affronte un nouvel ouragan tout aussi puissant, des vents à près de 200 km/h mais qui faiblissent. Les habitants doivent rester chez eux au moins 72 heures. Les autorités américaines espèrent éviter le désastre de Katrina. 1800 morts, des digues ont depuis été construites.
Il est 7h09, une nouvelle semaine de fouilles dans les Ardennes à la recherche du corps d'Estelle Mouzin.
La fillette de 9 ans enlevée par Michel Fourniret en 2003, cette 7e et dernière campagne débute aujourd'hui en présence de Monique Olivier. Moment important pour le père d'Estelle, car sans corps encore retrouver le deuil d'un enfant disparu est encore plus difficile à accepter, Cécilia Arbona.
Le 25 septembre 1995, Tatiana Andujar, 17 ans, se volatilise dans le quartier de la gare de Perpignan.
Un deuil, c'est impossible, puisqu'on n'a pas de corps et on ne sait pas ce qu'est devenue Tatiana aujourd'hui.
Sa maman, Marie-Josée Garcia.
Tous les matins, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, ce sera le jour, peut-être qu'aujourd'hui, on saura. C'est la même chose pour le papa d'Estelle Mouzin. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont retrouver le corps d'Estelle. Je ne peux pas imaginer mourir un jour et pas savoir ce qu'est devenue ma fille. C'est très douloureux pour moi. Donc voilà, je m'accroche à ça. Je me dis qu'un jour on saura.
Un traumatisme aussi pour les trois frères de la jeune fille.
C'est terrible pour les frères et sœurs en fait. Je suis sûre que dans toutes les familles c'est pareil. Pendant plus d'un an, j'ai été complètement obsédée par l'enquête, par la police. On les oublie quelque part. Ils sont dans un petit coin de la maison. Donc ils ont double peine. Leur sœur qui a disparu, ils voient aussi le chagrin des parents.
Des fils qu'elle a envie de saluer aujourd'hui.
Donc c'est Marc, Julien et Alexandre. Si je n'avais pas eu les garçons, je ne sais pas si j'aurais pu tenir toutes ces années.
Julien et Alexandre travaillent sur un projet de pièce de théâtre.
Je pense que c'est une très bonne thérapie. Et puis, c'est une façon de faire vivre Tatiana.
Un hommage à l'absente et un témoignage de la vie sans elle.
Paris, à son tour, limite la vitesse des voitures à 30 km/h, à part quelques grands axes. Enjeu de sécurité routière pour la mairie qui rappelle que le risque mortel pour un piéton passe de 80 à 10% en cas de choc avec une voiture, selon qu'elle roule à 50 ou à 30 km/h. Un cinquième candidat à la primaire, Les Républicains, dont on ne sait même pas si elle aura lieu. L'entrepreneur de 48 ans, Denis Père, fondateur du mouvement Nous Citoyens, l'annonce sur Twitter. Hier, Laurent Wauquiez a fustigé le poison de la division de sa famille politique. Le frisson dans l'antre rémoise de Raymond Coppa et Juste Fontaine. 66e minute du match hier, Reims reçoit le PSG et Lionel Messi apparaît pour la première fois sur une pelouse de Ligue 1. Alexandre Vaux.
L'histoire retiendra cette date. 29 août 2021 à 22h10, trois semaines après être arrivé en France, le meilleur joueur du monde, voire de l'histoire, entre enfin sur une pelouse de Ligue 1 avec le maillot du Paris Saint-Germain. Lionel Messi remplace Neymar, tout un symbole. Son ami et coéquipier, un des premiers à avoir poussé pour sa venue. Tout le public du stade Auguste Delaune chante alors son nom et se lève à chaque accélération. De bons débuts pour l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, pour qui Messi est bien plus qu'un joueur.
C'est Lionel Messi. Il arrive à transmettre aux autres joueurs son optimisme et son énergie, sa bonne adaptation et la semaine que nous avons passée ensemble ont fait du bien à l'équipe.
Après presque deux mois sans jouer, la mégastar argentine est entrée environ 25 minutes hier soir, n'a pas inscrit de but. Mais Lionel Messi a déjà marqué de son empreinte la Ligue 1.
Oui, et c'est Kylian Mbappé qui a marqué hier soir. Victoire parisienne 2-0, le PSG leader du championnat de foot après 4 journées. Victoire aussi hier soir pour Lille, Monaco et Strasbourg.
Anaïs Feuga, merci. Dans 3 minutes, premier épisode de notre série de Zoom consacrée aux attentats du 13 novembre, à une semaine de l'ouverture du procès.